Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Charles Magnien, avec l'ancienne avocate Yael Mellul, la journaliste à l'incorrect Juliette Briens, l'économiste au Pierre Rondeau. On va parler cigarettes dans un instant. Faut-il l'interdire dans les séries et au cinéma? On en parle avec vous au 3216 et sur le WhatsApp.
0612 424 424 sur WhatsApp pour tous vos messages.
14h25, le tu préfères. Tu préfères estival, tu préfères les glaces en pot ou les glaces en corps. Il y aura également à 14h30 RMC Conso, on parlera des vêtements anti-UV. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est surtout une grosse arnaque? Eh bien, on vous donnera la réponse avec Charlotte Méritant. Qu'est-ce qu'il y a, Charles?
Non, c'est important parce que dans les immanquables, on parlera de ce sondage qui montre que les Français mettent de moins en moins de crème solaire.
Mais ça, c'est pas malin, ça.
Ben oui, mais parce que ça coûte trop cher. Il y a quand même la moitié des 18-24 ans qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de crème solaire. Ben oui, quand on est jeune, on estime qu'on n'a pas besoin d'en mettre.
On n'est pas fut-fut non plus, manifestement.
Les jeunes sont-ils fut-fut? On en parlera dans les immanquables.
C'est marrant, j'ai déjà un début.
On parlera aussi. On parlera de l'arnaque au pistolet. Ça se passe dans les stations-service. Cette arnaque qui consiste à bloquer le pistolet quand vous le remettez, comme ça le suivant hop peut se servir et c'est vous qui êtes débité. Je vous raconterai tout ça.
Et puis il n'y a pas ça dans les stations de recharge électrique.
Et puis les amis, si on passait, à la coupe mulet. C'était dans le championnat d'Europe ce week-end.
Pas faire ça, non.
Et ben le mulet, c'est plus qu'une coupe, c'est un état d'esprit. Je vous raconterai tout ça.
Ouais, faut l'assumer.
Et oui. Faut l'assumer, mais visiblement on est très heureux en mulet. Je vous raconte tout ça à 14h40.
Il y a 34 personnes qui ont participé à cette Coupe du Monde.
Ils étaient plus de 1000.
Oui, bon, dans le monde, imaginez.
En Europe, c'est un championnat d'Europe.
Divisé par. Vous savez combien il y a de pays en Europe?
Non, mais le mulet est à la mode. On commence à avoir des mulets dans la rédaction.
Oui, bon, on veut.
On raconte.
J'ai pas vu ces gens alors. Ils doivent être à la nuit. Hein. Bon.
Rendez-vous à 14h40.
C'est Estelle Midi.
14h06 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le grand retour du jour et c'est malheureux, mais c'est celui de la cigarette sur les écrans et les réseaux sociaux. Alors que la consommation de tabac baisse chez les jeunes, de nombreux films et séries font la part belle à la clope. Il y a quelques jours aussi, l'influenceuse Léna Situation avait créé la polémique en s'affichant sur Instagram une cigarette à la main. Le tabac ne se cache plus, Charles.
Bah oui, sur Netflix, des séries extrêmement populaires hein, comme Peaky Blinders, Stranger Things, dans lesquelles les héros sont très souvent en train de fumer. Selon l'association Contrefeu, en 10 ans, la présence de cigarettes a été multipliée par 4 dans les séries les plus regardées par les moins de 25 ans. Même chose au cinéma. L'association a par exemple décompté dans le film L'Amour Ouf plus de 11 minutes de scènes de tabagisme à l'écran. Oui, chez les jeunes et les influenceurs, cette tendance s'exprime sur les réseaux par une nostalgie des années 90, l'époque où on pouvait fumer partout. La cigarette est extrêmement glamourisée à l'écran, dit l'association. Résultat, près de la moitié des 15-25 ans affirment que la présence de tabac dans les films, dans les clips, dans les séries, leur donne envie de fumer. Et Emmanuel Ricard de la Ligue contre le cancer s'inquiète dans le Parisien, je cite, d'un processus de renormalisation du tabac dans la société à travers les écrans. Le tabac qui, rappelons-le, tue chaque année environ 75 000 personnes en France.
Alors, faut-il bannir la cigarette dans les films et les séries, Juliette Briens?
C'est grotesque.
Ah bon?
Voilà, le cinéaste n'est pas là pour dépeindre une société lisse et hygiéniste. Dans les films, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des alcooliques, il y a des fumeurs, il y a de tout. C'est pas le travail du cinéaste. C'est la mort artistique, là. Vous comprenez bien que vous condamnez l'art. On ne dépeint pas la société telle qu'on aimerait qu'on le soit. On raconte une histoire. C'est ça l'art, c'est ça le cinéma. C'est vraiment.
Mais
je ne peux pas imaginer qu'il y ait vraiment des gens qui soient d'accord avec de telles propositions. Vous me demandez, il y a une vraie différence. Est-ce que c'est malin pour Léna Situation, qui est influenceuse et suivie par des centaines de milliers de jeunes filles de 16 ans, etc., de s'afficher sur son Instagram avec une clope? Je trouve pas que ce soit très intelligent, personnellement. Mais ça n'a rien à voir. Genre, le cinéma, c'est on raconte une histoire, c'est artistique. On a la vision du cinéaste qui dépeint un personnage qui n'est pas forcément qui n'est pas qu'un personnage de vertu, qui a ses faiblesses, qui a ses parts sombres.
Mais c'est la facilité, la cigarette. En fait,
c'est pas du tout.
facilité. Quelqu'un qui est stressé, à l'écran, tu le vois fumer une cigarette. Ah, il fume, il doit être stressé. Tu le vois prendre. Dans la série The Pitt, par exemple, t'as l'infirmière en chef, elle est toujours en train de fumer. Tout le temps. Et en fait, tu la vois hyper stressée, donc elle fume. Tu vas avoir, dans les séries ou dans les films, quelqu'un qui est triste, bon, bah, il fume. Il est stressé, il fume. Bah, peut-être qu'on peut montrer quelqu'un de stressé sans qu'il ait besoin de fumer. Je veux dire, dans la vie, il y a des gens stressés qui ne fument pas. Je veux dire, c'est un peu
déjà,
aussi.
On montre parfois des gens stressés qui ne fument pas. Tout le monde ne fume pas dans les films.
Est-ce qu'on est obligé de voir des gens fumer et boire dans les séries américaines?
C'est pas qu'on est obligé, c'est le regard de l'artiste et du cinéaste.
Bon, enfin, dans Dallas, ils fument,
vous allez pas leur apprendre leur métier. Enfin, c'est quand même fou.
Ben les mecs, ils sont obligés de mettre des gens qui fument et qui boivent.
Ils ont une interprétation de leur personnage qui est très précise. S'ils décident que le personnage est un fumeur, un alcoolo, un toxico, je ne sais quoi, un violeur, mais ils racontent une histoire. C'est lunaire quand même.
Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le droit de montrer un sexe nu dans un film. Alors que les gens peut-être font l'amour, Juliette. On n'a pas le droit de le montrer. C'est comme ça.
C'est pas vrai. Il y a plein de
films. Si c'est vrai, en fait. Un homme nu en gros plan, vous n'avez pas le droit. Par exemple,
moi j'ai regardé White Lotus toutes les saisons. Il y a une bite qui sort.
Attention, on va rester sur sexe.
Par
ailleurs, la loi en France au cinéma et dans les séries, c'est l'interdiction de montrer un pénis en érection.
D'accord.
Dans un film.
Mais les amis. Moi, je ne suis pas hygiéniste. Le fait de voir un pénis masculin, un pénis, ça me choque pas. Je vois pas pourquoi c'est interdit. Qu'il y ait des limites d'âge pour certains films, je le conçois totalement.
On va pas voler l'interprétation à l'artiste de l'histoire qu'il raconte.
On aura une réalisatrice avec nous, Naomi Lefort, dans un instant, qui nous donnera son point de vue justement en tant que réalisatrice sur la cigarette et pourquoi pas l'alcool. Il y a des séries américaines, je pense à Scandale par exemple. À chaque fois que l'héroïne elle rentre chez elle se sert.
Une bouteille.
Écoutez-moi bien. Mais elle ouvre une bouteille
de Chardonnay.
Et elle se sert un verre, mais c'est une piscine, quoi. C'est 8 verres pour nous. Bon, et ben n'empêche que tu bois pas, tu regardes ça, tu te dis tiens, si je vous ouvrais aussi une petite bouteille. Bon, on n'est peut-être pas obligé, Pierre Rondeau.
Je suis d'accord avec les deux arguments. Il faut que ça serve le récit. Les exemples qu'a donné Charles de séries ou de films qui montrent et qui affichent les cigarettes, Peaky Blinders, ça se passe dans les années 20. Ouais. Stranger Things dans les années 80. L'amour ouf dans les années 80. Ouais. À une époque,
et
à une période.
En 2026.
Alors c'est pour ça qu'il faut que ça serve le récit. Et quand on veut dépeindre les années 20, les années 80, où à l'époque la clope était banalisée, je vous rappelle que dans les années 2000, on fumait dans les restaurants, on fumait à l'intérieur. Dans les années 80, non mais attends, ça sert le récit. Je dis pas qu'il faut la légitimer, qu'il faut la mettre en avant. La situation s'est mise en avant, c'est une critique. Dans The Pitt qui se passe aujourd'hui, en disant je stresse, je fume, c'est critiquable. Mais Peaky Blinders dans les années 20, il fume parce qu'à cette époque-là, on connaissait pas les méfaits du tabac et tout le monde fumait. Je dépeins une société.
Je me permets juste une remarque sur Peaky Blinders. J'adore cette série. Je l'ai regardée à l'époque où j'ai arrêté de la cigarette, justement. Et c'est très douloureux parce que, non mais sans déconner, dans cette série, le héros est très beau, très classe. Je veux dire, il a influencé une génération entière de mecs qui mettent des bérets maintenant, les buzz cuts, etc. Il y a un look Peaky Blinders chez les jeunes hommes aujourd'hui. Il est beau. Et il fume dans chaque scène. Dans chaque scène, il a une clope au bec. Et j'ai arrêté la série alors que je l'adorais parce que ça me donnait trop envie de fumer. Il y a un vrai effet.
Ici, ça sert le récit. Ça dépend de la société.
Si il fume trois clopes de moins, la série n'est pas moins bonne. Hein.
On est d'accord.
Si il ne fumait pas, ça changerait la série. Je ne l'ai pas vu.
J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous comprends quand vous avez une série hospitalière qui se passe en 2026, The Pitt, et une infirmière parfumée parce qu'elle stresse. Là, on va dire, en gros, la clope déstresse. Et c'est malsain, c'est dérangeant. Mais quand on a Stranger Things, ça se passe dans les années 80, à l'époque, on pouvait fumer dans l'avion. Les gens fument, ou en disant, en montrant une société où c'était banalisé, les scénaristes, les réalisateurs se sont servis de l'usage
mais
pour le récit.
Dans la saison 1, il n'y a pas une clope, alors que ça se passe dans les années 80. Et dans la saison 2, alors on ne sait pas si c'était le lobby du tabac, etc. D'un seul coup, dans Stranger Things, ça se met à fumer.
C'était sponsor par Philippe Maurice.
On ne sait pas quelles sont les règles.
Moi, je ne suis pas pour interdire la création artistique. Si ça sert le scénariste et le réalisateur, il ne faut pas l'interdire.
Yael Mellul, est-ce qu'il faudrait, mais ne serait-ce que pour les jeunes, tout simplement, dire. Quand on fait une série ou un film, vous faites ce que vous voulez, mais pas de clope, quoi, tout simplement, quoi.
Non, moi, je suis pas pour l'interdiction. En revanche, peut-être qu'il faudrait faire des mentions, comme il y a souvent dans les. Avant, il y a des mentions.
Manger, bouger.
Attention, saine, à caractère sexuel, ou voilà.
Attention, cigarette.
Attention,
des cigarettes sans fumer.
Une série ou un film, c'est là aussi pour montrer une époque. J'ai revu il y a quelques jours Les choses de la vie.
Ah, Claude Sautet.
Extraordinaire. La
cigarette. Fume dans toutes les scènes.
Mais la cigarette, c'est un personnage du film. C'est, je me suis même fait la réflexion. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il s'allume une cigarette avec l'autre. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire de ce film? On va interdire de sa diffusion aujourd'hui. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça reflète une époque. Voilà, les films qui se déroulent dans les années 70-80, bah ça fumait de tous les côtés. Oui.
Non, on va pas interdire les films d'avant, mais maintenant quand tu fais un film aujourd'hui sur 2026,
bah oui, mais il y a des gens qui fument. Il y a des gens qui fument encore aujourd'hui.
Là, je vous rejoins.
En revanche, quand je vois Léna Situation posée fièrement avec une clope au bec, et alors qu'elle a 15 millions d'abonnés, ça me choque profondément. Parce que là, on est vraiment dans je suis fière de fumer, et de la même manière Virginie et Firin qui pose avec sa clope. Moi, ça, je trouve ça choquant, par contre.
Il y a un côté glamour, un peu.
Mais c'est pas glamour de fumer.
C'est ça le sujet, c'est qu'à Cannes, on a vu beaucoup de cigarettes sur les photos, sur les réseaux sociaux.
Oui, mais il
n'y
a pas
que
de la cigarette à Cannes.
Je sais bien, mais afficher et revendiquer.
C'est pas de cocaïne sur les photos, voyez-vous. C'est rare de voir un mec se faire un rail en couverture de Vogue.
Il en fait rarement une story. Mais là, on voit les stars afficher une cigarette. C'est plus tabou. Au contraire, c'est cool de s'afficher avec une clope à Cannes.
C'est glamour.
C'est glamour pour Léna Situation. Bah oui, mais moi, quand je vois qu'Instagram est capable d'interdire le moindre téton féminin, la moindre photo d'allaitement, est-ce que Instagram ne devait pas être capable de dire aux stars
Situation, elle a 15 millions d'abonnés,
Instagram pourrait lui dire elle n'a pas le droit de montrer son téton.
Son téton ne sera pas affiché, il sera interdit, mais la cigarette sera affichée.
Alors, nous sommes avec une réalisatrice dans Estelle Midi pour nous donner son point de vue et nous éclairer sur ce débat. C'est Noémie Lefort, réalisatrice de l'excellent film Mon héroïne. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On voit que la cigarette fait son grand retour dans les films et les séries. Est-ce que on pourrait demander à des réalisateurs, tout simplement, évidemment, on va pas flouter les cigarettes dans les films de Claude Sautet, mais est-ce que aujourd'hui, vous en tant que réalisatrice, si on vous disait pas de cigarette dans votre long métrage, est-ce que vous diriez oui?
C'est marrant de me poser la question parce que justement, ça m'est arrivé sur le dernier que j'ai fait.
D'accord.
Dans le scénario, il y avait un personnage qui justement devait fumer et finalement on l'a retiré. Voilà, parce qu'on me l'a demandé, ça ne servait pas à grand chose, on l'a transformé en blague sur la cigarette. Voilà. Oui, ça peut arriver, mais ça ne m'a pas gênée. En fait, le problème, c'est que depuis des années, elle est associée au cool, la cigarette. Donc dans les films, on a longtemps véhiculé cette image de le personnage est cool parce qu'il fume. Donc c'est ça le problème, et c'est aussi le problème de glamourisation, comme vous en parlez, en fait. C'est ça le problème sur le jeune public, en tout cas. Mais oui, ça peut se comprendre.
Mais Noémie Lefort, quand vous dites dans mon dernier film, j'avais créé un personnage qui fume, c'est quoi l'intérêt de créer un personnage qui fume?
Ah, mais non, ce personnage-là, en fait, est extrêmement détestable et pédant, et donc il proposait une cigarette à l'héroïne, et en fait, on l'a coupé, parce qu'en fait, ça ne servait à rien. Concrètement, ça n'apportait rien, à part que ce personnage était détestable, et là, pas cool, pour le coup.
Et est-ce que vous pensez que tous les réalisateurs seraient prêts à bannir la cigarette, justement, dans leur film ou dans leur série?
Je ne sais pas, je pense que oui, ça dépend un petit peu du point de vue artistique qu'on a, si ça sert l'histoire ou pas. Je dis, le seul problème pour moi, c'est la glamourisation de la cigarette, en fait, que ça rend le personnage cool. Mais dans les films de genre, comme vous l'avez dit, ou dans les films d'époque ou ce genre de choses, ça fait partie d'une période, d'une époque.
Mais un film comme L'Amour Ouf, par exemple, 11 minutes de scène avec des cigarettes dans L'Amour Ouf, est-ce que le film L'Amour Ouf aurait été moins bien s'il n'y avait pas eu de cigarettes?
Une bonne question. Non, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Je pense qu'il y a aussi un côté esthétisant, en fait, aussi dans le fait de fumer, dans la. Et la fumée, généralement, on l'utilise aussi dans la lumière, en fait. Donc il y a un côté très esthétique dans le fait de fumer. Voilà. C'est aussi un truc pour la lumière et ce genre de choses. Donc il y a vraiment une espèce de glamourisation et d'image, en fait, en gros, que la cigarette véhicule et qui rend l'image. Et la fumée, on l'utilise au cinéma pour les lumières.
Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Noémie Lefort. Voilà, c'est pas une fatalité finalement de montrer de la cigarette au cinéma. On peut aussi s'en passer. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir été avec nous. Puis, des messages sur le WhatsApp.
Il y a une autre question, quand même, parce que là, on parle du cinéma et j'entends Juliette ou Yael dire pas touche à la liberté, etc. Mais je veux dire, il y a 30 ans, enfin moi, j'ai pas connu cette télé où ça fumait à la télé.
Nous, on n'a pas le droit de fumer et de boire en plateau, vous voyez, par exemple.
Et ça vous choque pas?
Non.
Voilà. Donc comme quoi, il y a un effet.
Dans une création artistique, et ça a été dit par la réalisatrice, si ça sert le récit, faut pas l'interdire. On n'est pas pour la censure.
Qui va juger ça sert le récit? Il y aura un comité du tabac qui lit les scénarios et qui dit.
Uniquement, pas tous en même temps.
Si ça dépeint un personnage détestable, acariâtre, qui est enfermé chez lui, à fumer club sur sur Klopp, là effectivement ça peut servir le personnage et la création du personnage. Si c'est juste je me balade dans la rue et je fume, ça sert strictement à rien.
Oui, mais pourquoi est-ce que par exemple tout simplement tiens sur RMC Story, donc là de midi à 15h, enfin en fait de 5h à 15h, c'est des émissions, donc là il y a pas de cigarette, d'accord? Et puis à 21h, va y avoir un film en prime et là cigarette.
Mais on joue pas des rôles,
encore une fois,
mais c'est pas ça. C'est je veux dire qu'à un moment, tu peux aussi te dire allez, on bannit la, à partir de maintenant, et ben en fait, on bannit la cigarette des écrans,
si
on les a bannis des plateaux, on peut les bannir
si
des
ça
écrans.
Ça sert le récit et ça a été très bien dit par la réalisatrice, elle a dit voilà, ma scène
parfois
avec la,
vous me stressez
avec la cigarette.
Et vous me stressez et je prends pas une cigarette parce que ça là, sert mon récit de montrer
et
à quel point vous me stressez.
Heureusement d'ailleurs, elle l'a dit dans son scénario,
je
quelqu'un
ne me sers pas un verre non plus parce que vous m'avez fatigué.
Quelqu'un devait fumer dans son scénario, le CNC ou un producteur a dit non, ça ne passe pas, elle a dit très bien, je la retire, elle ne servait à rien cette scène. Si à l'inverse, une scène sert le récit parce que je ne sais pas pourquoi il faut que le personnage fume ou prenne un verre de vin, on va pas interdire à l'artiste sa création et sa créativité. Moi, je suis contre la censure artistique. Encore une fois, si ça sert le récit, fumer pour fumer, ça sert à rien. Et d'accord, on est tous d'accord pour le dire, fumer ne sert à rien. Mais s'il y a le jeu de lumière, le personnage, l'atmosphère, l'endroit, le lieu, le moment, si l'artiste considère que le fumer est utile pour son récit, je vais pas lui interdire.
Je vous vois sourire, Charmanie, en regardant le WhatsApp.
Oui, c'est juste Jean qui vient de nous écrire, mais votre sujet est faussé, car je sais que tout le monde sur le plateau fume du cannabis en plus.
Donc pas ça, du tout. Non,
ça m'a fait sourire.
Ni l'un ni l'autre.
Tous. Et puis, j'aime bien le message de Guillaume qui nous dit, vous voulez interdire la clope, comment on fait pour tourner un biopic sur Gainsbourg? Ce serait ridicule, voilà ce que nous dit.
Oui. C'est exactement ça, ça sert le récit, un biopic sur Gainsbourg.
Et oui, ça serait compliqué. Et en même temps, Laurent nous dit, on peut même évoluer sur la question. Regardez Lucky Luke. Ils lui ont retiré sa clope, remplacé par un brin d'herbe. Et bah, il est pas moins cool. Et ses aventures,
c'est
pas
mal.
Moi, je pense immédiatement, clope et alcool, je pense immédiatement à Mad Men. Série géniale que je recommande. Alors, Don Draper, il enchaîne clope et verre de whisky absolument tous les épisodes, chaque seconde d'épisode. Ça contribue à sa descente aux enfers. C'est son personnage, c'est sa part sombre. C'est.
Oui, mais tu peux pas nier que.
Ça fait partie de l'histoire.
Oui, mais il est beau et charismatique dès le début de la série. Avec un verre dans une main et une cope dans l'autre.
Dans la vie, faut accepter.
Donc ça rend beau et esthétique.
Il faut accepter d'être offensé, il faut accepter d'être tenté. Moi aussi, ça me donne envie, les clopes à l'écran. Parce qu'il y a vraiment, c'est très esthétique. La fumée est dense et ils mettent le petit crépitement, là, vous savez, les salades. Ouais. Alors oui, t'as envie. Mais c'est pas pour ça qu'à chaque fois que je vois Don Draper s'allumer une clope, je veux m'en allumer une. J'ai aussi preuve de restreinte. Enfin, bon, c'est l'art, quoi. C'est comme ça.
En tout cas, on vous a posé la question sur le WhatsApp. Faut-il bannir la cigarette dans les films et les séries?
Sur nos réseaux, vous dites non. Non à 76%.
Voilà. Donc, c'est une large majorité. 14h21, dans Estelle Midi, c'est l'heure du Tu préfères. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Tu préfères.
Tu préfères Estival. Aujourd'hui, on va parler glace. Tu préfères glace en pot ou en cornet? Pierre Rondeau.
En pot. Enfin, en cornet, ça sert à rien. Je veux dire, moi, si on aime la glace, on aime la glace. Point. On n'aime pas le cornet. Et si en plus on rajoute le cornet avec du chocolat au fond, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Vous aimez la glace ou le biscuit?
Bah, on peut avoir les deux, non?
Bah non, je prends la glace, souvent faite maison et avec.
Oh
une,
là là.
Non mais alerte bobo, on devrait avoir un jingle avec du lait d'avoine.
J'ai vu récemment une story sur Instagram d'Estelle Denis
qui je veut, fais mes glaces moi-même.
Voilà, j'ai la même machine.
Désormais.
J'ai la même matcha, je crois.
Non, pas du tout. La pâte à tartiner.
J'ai la même machine et effectivement les glaces maison sont très bonnes. Et c'est en pot.
D'accord, donc vous faites glace en pot. Alors, Liel Mélu, là, ça, je sens les glaces en cornet, là, ça y est.
Ah, les glaces en cornet, les glaces italiennes. Dans la machine, gras, là. Oh là là, vanille fraise. Mais moi, je pourrais en manger, je sais pas, 10
oui,
par
mais,
jour.
Oui, mais après, ça coule.
Mais non, mais enfin, bah, oui, ça
moi,
coule.
C'est protégé,
c'est
bien sûr.
C'est du charme, on en a partout.
Ah oui, c'est charmant. Ah,
super.
Ah, mais j'adore, charmant. C'est bon, c'est chimique, c'est... j'adore.
D'accord.
Il faut que tu les fasses maison. Il faut que tu les fasses maison.
Mais oui.
Mais il y a la machine italienne.
Oui, mais vous avez le droit aussi de prendre glace à l'italienne dans un pot. Hein.
Non, ça n'a pas le même charme.
Non, mais non.
Bah,
pas
si, du
mais
tout.
Mais bah, si, on a le droit.
Oui, ils le proposent, effectivement, mais jamais de la vie. Non, c'est avec le cornet. Hein.
En plus, ils sont mauvais, les cornets. C'est toujours une espèce de truc de papier mâché.
Non, là,
là,
c'est le papier gaufrette.
Oui, bah c'est ça. C'est exactement ça.
J'adore, moi.
C'est Juliette qui va trancher.
Le pot.
Voilà.
Bien en sûr. Fait, le cornet, mais c'est ni fait ni à faire. Déjà, c'est vrai qu'ils sont jamais vraiment bons. Ça rajoute des calories en plus que t'as pas demandé parce qu'à la base, t'es venu manger une
justement,
glace.
Justement, c'est tout l'intérêt.
Ça coule. Et en plus, quand tu prends deux ou trois boules, bah, t'empiles les boules les unes sur les autres. Non, du coup, t'es obligé de finir un parfum pour commencer l'autre. Tu peux faire des mélanges comme ça, comme dans les pots. Vachement moins pratique. Je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Non, non, mais qu'est-ce qu'il y a, Charlemagne?
Mais non, mais vive le cornet. Alors, non, mais parce qu'ici, vous êtes tous minces et fit, mais nous, les gourmands. En tant que porte-parole des calories sur ce plateau, l'intérêt du cornet, c'est que vous avez fini votre glace, parfois même avec deux boules sur le cornet, parce que quand on est audacieux et rapide, on peut manger les deux boules sans que ça coule.
Et qu'on aime la vie.
Et qu'on aime la vie. Mais malgré ces deux boules, vous avez encore un petit creux. Et ben là, magnifique. Il y a un grand cornet. Bon, certes, pas hyper bio, etc. Mais au contraire, il y a un bonus de gourmandise à croquer.
Mais oui,
à la fin.
À l'intérieur, voilà.
Tu peux pas avoir trois boules sur ton cornet. Alors que nous, dans nos pots, on peut avoir cinq boules si on veut. Ouais. Donc en fait, pour les gourmands, on veut mieux le pot que le cornet.
Mais oui.
Eh ben oui, Charles.
Un pot, cinq boules, faut se poser des questions.
Ben, c'est un saladier.
Ouais,
c'est un saladier, c'est tout.
Tu peux faire glace en saladier ou glace en pot?
C'est un saladier à partager, car oui, nous, les adeptes du pot, nous sommes dans le partage.
Oui, oui,
pas comme
ça.
Vous. Les cornets, c'est un truc d'égoïste.
C'est très égoïste.
Ben, bien sûr. Absolument. Alors que le pot, souvent, tu dis, est-ce que je pourrais avoir un pot, trois boules et deux cuillères?
Non,
tu prends une boule et
la glace, à moi.
Non. Truc d'égoïste.
À la cinquième boule dans un pot, il faut se poser des questions. En attendant, on vous a posé des questions sur nos réseaux entre la glace en cornet et la glace en pot. Et bien, il y a elle, la team cornet, elle l'emporte largement.
Les gens des âmes d'enfants.
Ça m'étonne. On aime la vie à 64%.
Elle a fait voter toute sa famille. Yael Mélule.
Le lobby du cornet.
Dans un instant, dans SN Midi, RMC Conso avec Charlotte Méritant. Et puis ensuite, on jouera pour des formidables cadeaux sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. SN Midi.
Estelle Denis.
14h29, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est RMC Conso avec Charlotte Méritant.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Charlotte, le soleil brille, il fait très chaud. Et donc, avec vous, nous allons parler des vêtements anti-UV. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui en achètent pour leurs enfants, mais vous allez nous dire si ça marche ou pas, c'est un bon plan ou une arnaque, les vêtements anti-UV. D'ailleurs, vous êtes venus habillés en total look anti-UV.
De la tête aux pieds, d'ailleurs.
Vous pouvez le voir sur RMC Story.
Voulez-vous mon chapeau?
Non, je ne vais pas le prendre.
Dommage.
On va décrire ces habits de Charlotte. Alors, elle est avec un chapeau un peu Indiana Jones, mais avec un petit motif léopard. Une chemise qui rappelle celle de Pierre Rondeau, mais celle de Pierre Rondeau n'est pas anti-UV.
C'est vrai.
Et un pantalon léopard.
Voilà. Et
Charlotte.
Tout est anti-UV, effectivement. Ah oui. Tout est fait pour filtrer les rayons du soleil. Et j'ai pas pris un coup de soleil depuis ce matin. Bon, certes, je n'ai pas beaucoup pris le soleil.
Vous seriez venu en jean, vous n'auriez pas pris de crème de coup de soleil.
Alors, c'est un bon point le jean, mais vous allez voir que les pantalons UV, ça a un intérêt par rapport au jean quand même. Mais je vous expliquerai tout ça. Les vêtements anti-UV, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que jusqu'ici, ça avait la réputation d'être assez moche.
Oui, c'est vrai.
Voilà, les précurseurs, c'était Décathlon. On les associe plus au sport. Et c'est vrai que le t-shirt anti-UV Décathlon, bon, bah, il fait pas vraiment rêver en termes de style. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui essaient d'allier efficacité et style pour des vêtements de la vie de tous les jours. Et c'est le cas, par exemple, de ceux que je porte qui sont de la marque Kerson et qui essaient vraiment de développer des gammes et des collections qui sont pour le quotidien, même si c'est pas toujours indispensable, évidemment, de porter des vêtements anti-UV au quotidien.
Et comment ça marche, les vêtements anti-UV?
Pour faire des vêtements anti-UV, il y a deux solutions. C'est ce que m'a expliqué Claudia Galeana, qui est la fondatrice de la marque Kerson. Soit vous projetez des filtres chimiques, en fait un produit chimique, directement sur le vêtement, sur n'importe quel textile, et ça donne cette protection. Mais le problème de cette solution-là, c'est que déjà, vous avez encore des produits chimiques qui sont potentiellement, alors pas au contact de la peau, mais quand même sur le vêtement. Et en plus de ça, ça part au lavage, donc c'est pas génial. Deuxième solution pour faire des vêtements anti-UV, c'est de travailler sur la fibre, la matière, sur la couleur également, un tissage qui soit suffisamment serré pour ne pas laisser passer la lumière. Et donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de produits chimiques, c'est ce que fait cette marque, c'est ce que font beaucoup de marques aujourd'hui. Et ensuite, comme pour les crèmes, il y a une norme à respecter, des tests en laboratoire à réaliser, qui vous donne ensuite un indice de protection pour le vêtement.
Donc vous avez des vêtements 50+, 30, 20.
Exactement, oui, c'est vrai. Alors sauf que c'est pas l'indice SPF, parce que SPF c'est pour les crèmes. Il y a un équivalent pour les vêtements qui s'appelle UPF, mais c'est la même chose, la protection maximale, c'est là aussi 50 plus. Pour être bien protégé, il faut un minimum de UPF 40. Et ceux que j'ai sur moi, d'ailleurs, ils sont tous 50 plus, donc protection maximale. Et attention, parce que toutes les marques ne se valent pas, donc vérifiez bien qu'elles ont la certification européenne. Il doit y avoir le logo CE sur les vêtements. Et puis, cet indice UPF, si vous voyez sur un vêtement SPF, c'est probablement que la marque ne s'y connaît pas très bien, n'est pas très professionnelle. Donc ça, c'est un indice qu'il faut plutôt fuir si jamais c'est écrit ça.
Après, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours pensé que c'est une arnaque ces vêtements anti-UV, parce que quand vous portez un t-shirt noir, bah, vous n'allez pas prendre de coups de soleil. Donc quel est l'intérêt d'aller prendre un t-shirt anti-UV?
Alors, il y a quand même un intérêt. Alors, un t-shirt noir, c'est plutôt une bonne solution anti-UV. Pourquoi? Parce que la couleur est foncée.
Bravo, Juliette Briand.
Voilà. Le problème, c'est que ces vêtements-là, qui ne sont pas faits spécifiquement contre les UV, déjà, vous ne savez pas quel indice de protection ils ont, parce que toutes les marques ne font pas des tests en laboratoire et vous n'allez pas demander
au travers d'un t-shirt.
Alors, c'est possible. J'ai posé la question à une dermatologue qui s'appelle Isabelle Gallet, qui est membre du syndicat national des dermatologues. Oui. Soyez sceptiques, je vous assure.
Et elle vend des crèmes également.
Non, alors non, pas du tout.
Et... fondatrice de la marque de vêtements anti-UV.
Pas du tout. Je précise quand même que la marque et la dermatologue que j'ai interrogée n'ont aucun lien. Elle est parfaitement indépendante par rapport à ça. Après, évidemment que les dermatologues.
Vous
n'allez
pas
vous
me dire
qu'on
met de la crème sous un t-shirt.
Alors non, il ne faut pas le faire. Pas de la crème solaire sous le t-shirt. Non, mais alors. Et après, forcément, et vous savez que le cancer de la peau, c'est le premier cancer dans le monde et en France. Et donc aujourd'hui, les dermatologues évidemment insistent sur la nécessité de se protéger au maximum. Et la dermatologue estime que sous un t-shirt blanc qui serait un petit peu trop léger, et si vous avez la peau claire, eh bien oui, vous pouvez tout à fait prendre un coup de soleil. Donc elle voit un intérêt dans ces vêtements anti-UV. Après, certes, vos vêtements, ils peuvent vous protéger, mais si vous portez beaucoup de lin, par exemple, le lin, c'est une matière très fluide qu'on aime bien l'été, mais qui peut laisser passer les rayons du soleil. Les matières synthétiques, d'ailleurs, sont plus efficaces que les matières naturelles, les couleurs foncées aussi. Donc c'est vrai qu'un jean, c'est épais, donc vous n'allez pas prendre de coups de soleil. En revanche, c'est épais, donc ça donne chaud aussi. Et c'est l'intérêt de ces vêtements anti-UV, c'est aussi que c'est des matières fluides, donc avec lesquelles vous allez avoir moins chaud et plus de confort.
Si on devait choisir deux vêtements à avoir en pièces anti-UV, ce serait quoi?
Ce serait un, le chapeau, parce que c'est probablement, vous savez qu'il y a beaucoup de cancers de la peau qui se développent par les oreilles.
Ouais.
Vous ne l'aimez pas, mon chapeau?
Si, mais moi, c'est vrai que
c'est... Ouais, je l'aime bien. Prête pour aller faire un safari.
J'ai beaucoup de cheveux, alors je vais cacher mes oreilles en dessous.
Et aussi le haut, le t-shirt, la chemise. Alors moi, je l'ai remonté parce que évidemment, je vais pas prendre le soleil là, mais l'idée c'est de le fermer au maximum. Désolée, mais le but c'est d'être couvert au maximum.
C'est en col roulé à la plage.
Ouais. C'est l'idée.
Et mettez votre cagoule aussi.
L'écharpe anti-UV, très important.
J'ai une étole pour vous, Charles.
C'est une étole.
Ah oui, voilà.
Une belle écharpe anti-UV. Ouais.
Pour la nuit.
Pas assez.
Non, mais en vrai, vous rigolez, mais c'est important quand même de porter ce type de vêtements pour si vous faites de la randonnée en plein soleil, si vous faites une balade en bateau, si vous êtes très exposé au soleil et sous de très fortes chaleurs en plein été, ça a un vrai intérêt. Après, évidemment que dans le quotidien, pour aller au travail où il y a la clim et où vous ne voyez pas le soleil, ça n'est pas intéressant. Et ça, les marques le disent très bien aussi. Elles sont pas là pour créer du stress exagéré. Mais pour les situations très ensoleillées, oui.
Merci beaucoup Charlotte. Méritant tous les jours 14h30 dans Estelle Midi. On parle de quoi demain?
Demain, je vous entendais parler de glace. Alors je vous aiderai à faire le choix de la meilleure glace au supermarché, parce que vraiment, il y a de tout et il y a du très très bas de gamme et on ne s'en rend pas forcément compte au premier abord.
Ah d'accord, des marques très connues?
Alors il y a une marque très connue qui n'est clairement pas la meilleure.
D'accord, écoutez... écoutez, on a hâte d'être à demain pour connaître les marques à ne pas consommer.
Super.
Merci beaucoup Charlotte. Méritant, dans un instant, les immanquables de Charles, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Et on va tout de suite regarder vos messages, évidemment, sur le WhatsApp de l'émission. Vous êtes nombreux à réagir à la question de la cigarette dans les séries, au cinéma. Est-ce qu'il faudrait la bannir? Magali nous dit, mais arrêtons de vouloir tout interdire. La cigarette fait partie de la vie. C'est comme ça. À chacun de se responsabiliser. On va pas masquer la cigarette. Il faut prendre ses responsabilités. Hugo nous dit, si on va plus loin dans votre esprit, allons jusqu'à interdire l'alcool. Et puis James Bond se servira des mentalos. Jean-Michel nous dit, pourquoi pas ne pas interdire les burgers dans ces cas-là, ou le coca à l'écran, tout ça aussi c'est dangereux. Bref, vous êtes contre une interdiction de la cigarette au cinéma. Vous continuez à réagir à l'émission en direct au 06 12 424 424.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 14h41, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et tout de suite, on joue au jeu de la Coupe du Monde.
Une liste de cadeaux, 26 cadeaux, c'est à vous de choisir, comme les 26 joueurs, 26 cadeaux cachés derrière les noms des joueurs, parmi lesquels, pourquoi pas un chèque de 10 000 euros, ou bien même la totale, le pack Coupe du Monde, avec des baby-foot, des écrans, des maillots, des bleus à remporter.
Et on joue avec Johan de Chambéry, bonjour Johan.
Bonjour à tous, merci. Je suis content de vous entendre, de vous écouter.
Eh ben, ça s'entend, Johan. Johan, je vais tout de suite me diriger vers le petit tableau, le tableau des joueurs de l'équipe de France qui reste. Pour faire gagner la totale, Johan, il reste Samba, Gusto, Lacroix, Tchouaméni, Konaté, Barcola, Mbappé, Digne, Upamecano, Lucas Hernandez, Mateta, Cherki, et c'est tout. Et vous allez devoir choisir un joueur.
Étant supporter parisien, on va choisir Barcola.
Barcola, le 26.
Barcola, l'attaquant du Paris Saint-Germain, le numéro 26. Attention, Johan, j'ai pris mon petit marteau. Mmh. Et donc, je vais tout de suite taper sur le numéro 26. Ça y est, hop, je prends le petit papier. Johan.
Alors, suspense.
Le suspense. Johan, oui. Vous allez être heureux, Johan, je pense, parce que vous venez de remporter le pack Coupe du Monde, Johan. Et si, avec le vidéo projecteur Samsung, le maillot officiel de l'équipe de France, le ballon officiel de la Coupe du Monde et la boîte Lego Coupe du Monde. Là, Johan, c'est le pack et il est pour vous, Johan.
Merci à tous, merci beaucoup. C'est du bonheur de vous entendre.
Eh bien, écoutez, tant mieux. Et puis, voilà, j'espère que ça arrivera juste avant la Coupe du Monde. C'est dans 15 jours, hein, le mondial. Parfait. On essaie de faire vite, mais après, la poste, hein, vous savez, c'est pas nous. Merci, Johan, et continuez de nous écouter sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables de Charles. Et tout de suite, Charles, nous allons démarrer avec la fermeture du jour.
La fermeture de CNews. C'est en tout cas ce que promet François Ruffin s'il est élu invité de l'émission Quelle Époque ce week-end sur France 2. Il a réitéré son envie de fermer CNews s'il était élu à la présidence de la République. Selon lui, je cite, CNews est une machine à fabriquer de la zizanie dans le pays. Ce n'est pas de la liberté d'expression. CNews a signé une convention sur laquelle elle s'engage sur le pluralisme des opinions. C'est devenu une machine à fabriquer une pensée d'extrême droite, estime François Ruffin, qui voudrait donc fermer CNews.
Et on lui a expliqué comme que ce n'était pas les politiques qui décidaient quelle chaîne ouvre et ferme. Mais... Enfin, ça ne se passe pas comme ça, en fait.
C'est sa vision du pouvoir.
Ah oui, c'est une vision étonnante. Quand même, faut-il fermer CNews?
Alors, c'est l'ARCOM qui prend la décision. Bah, et l'ARCOM, a pris la décision lorsqu'ils ont remis, pas en vente, mais en tout cas quand ils ont remis...
Renouvelé
les fréquences de la TNT. Ils ont validé la candidature de CNews, qu'on critique ou qu'on adhère, peu importe, et ils ont rejeté la candidature du Média. Oui. Média, donc, qui était la version, on va dire, de gauche de CNews. Mmh. Moi, je serais partisan, si on parle de Média, non pas qui prône le pluralisme, mais d'une TNT qui prône le pluralisme. Si on a CNews d'un côté qui se revendique évidemment de droite, voire d'extrême droite, on devra avoir le contrepoint du Média qui se revendiquerait évidemment d'extrême gauche. Mmh. Avoir CNews.
C'est ce que veut Mathieu Pigasse.
Mais moi, j'y suis partisan. Avoir CNews qui a une fréquence de la TNT payée avec nos impôts, qui met en avant un discours d'extrême droite ou de droite, et ne pas avoir le Média qui est sur YouTube et qui n'est pas sur la TNT, qui met en avant
François
discours.
François Ruffin de décider quelle et chaîne doit être sur la TNT ou pas.
On est d'accord. Là, je mets à la place de l'ARCOM. L'ARCOM aurait dû, s'ils ont validé CNews, aurait dû valider le Média.
Ça vous agace ou vous trouvez ça intéressant, Yael Mellul?
Ah non, je trouve ça complètement scandaleux, ce qu'il raconte. Je veux dire, ça montre à quel point son esprit est dictatorial. Il n'a pas à décider, lui, la fermeture d'une quelconque chaîne de télé, de radio, peu importe, qu'il soit d'accord, pas d'accord, c'est pas le problème. Elle existe, c'est le principe, même s'il dit que c'est pas ça, c'est le principe de la liberté d'expression pure.
C'est exactement
point.
Comme si Marine Le Pen, Jordan Bardella disaient nous au pouvoir, nous fermerons Radio Nova.
Absolument.
La privatisation de France Télévisions, c'est un peu l'idée. Hein.
Oui, mais elle a pas.
C'est pas pareil.
Oui, quand on veut privatiser un média, c'est pas la même chose, mais c'est dans le même
fermer,
esprit.
Ça n'a rien à voir. Ah. François Ruffin dit je fermerai, c'est pas le président.
On a Hugo Chavez qui avait fait ça il y a quelques années.
Oui, voilà.
Oui, voilà.
Alors, c'est ça. Juliette Briens,
je trouve ça décevant de la part de Ruffin, qui est censé être l'homme très à gauche, un peu nuancé, qui se démarque des autres, qui laisse ce genre de propos. Oui, c'est purement dictatorial et en plus c'est bête. Je veux dire, la droite, l'extrême droite monte dans toute l'Europe, dans tous les pays occidentaux, qu'il y ait des CNews ou pas. C'est pas CNews qui a fait voter, qui a fait monter le vote Marine Le Pen en France. Franchement, le penser, certains, c'est ridicule. Moi, je suis parfaitement pour l'existence du chaîne qui prendrait une ligne d'extrême gauche. Ça me dérange, mais alors pas du tout, au contraire. Et je pense aussi que dans le paysage global médiatique, radio et télé, donc télévisuel, la ligne CNews reste encore très sous-représentée par rapport au vote actuellement dans le pays. Donc je pense que des chaînes de qui sont quand même plus à gauche, il n'en manque pas. CNews, c'est une chaîne. En gros, ils ont une chaîne de télé, une chaîne de radio, quoi.
Mais t'as pas de chaîne de gauche, t'as pas de chaîne qui se réclame de gauche.
Eh ben, il faut qu'il y en ait une, mais ça me dérange pas.
Voilà. L'Arcom aurait dû dire, on met CNews et le média. Là, ils ont que CNews. Et moi, je serais pas comme Ruffin dire, il faut supprimer CNews. Faudrait que l'Arcom dise, si on veut une chaîne d'opinion, on a l'opinion de droite et l'opinion de gauche.
Déjà, on va passer à l'arnaque du jour.
C'est l'arnaque au pistolet dans les stations-service. Le principe, lorsqu'on termine de faire son plein, eh bien, certains mettent un dispositif pour bloquer le pistolet qui, donc, ne se raccroche pas correctement, la machine ne détecte pas la transaction et un malfaiteur peut alors reprendre le pistolet dans la foulée et remplir son propre réservoir aux frais de la personne qui l'a précédé. L'arnaque n'est pas nouvelle, mais visiblement elle connaît un regain avec la flambée des carburants. Ça pousse donc les forces de l'ordre à alerter les automobilistes qui mettent en garde. Il faut absolument attendre que le ticket de caisse soit sorti, qu'il y ait vraiment une preuve que la transaction est terminée pour remonter dans sa voiture et éviter que quelqu'un vienne se servir à vos frais juste derrière vous.
Qu'est-ce qu'il y a, Juliette Briens?
J'ai rien compris.
Bon, eh ben, quand alors, tu vas mettre de l'essence dans ta voiture. Bon, eh ben, tu crois que ton plein, il est fait. Tu vois, et t'entends clic-clic, t'entends le petit cliquetis, et tu te dis, tiens, c'est bon. Et t'as déjà, à la machine, pré-rempli ton truc. Bon. Donc, tu t'en vas avec ta voiture, mais en fait, le petit malin, il y a encore ta carte bleue, et en fait, le petit malin, il est derrière toi. Et en fait, tout simplement, il va prendre de l'essence.
Ah, ok, d'accord.
Voilà.
Même moi, en fait, qui n'ai pas le permis, j'ai compris. Hein.
D'accord.
Oui. Tu mets ta carte avant de te servir.
Oui, c'est vrai.
Après, en fait, il utilise voilà. Ta carte.
Ou alors, pendant que tu vas payer, t'as été garé ta voiture pour aller payer, bah, l'autre, il est derrière toi et il prend 50 balles d'essence.
Okay.
Est-ce que vous faites attention à ce genre d'arnaque, Yael Mélus? C'est vrai qu'en ce moment, Estelle Midi, c'est un jour une arnaque. Vous voyez, il y avait l'arnaque Wallo. Il y a toutes ces arnaques. Est-ce que vous faites gaffe ou pas du tout?
Moi, je fais hyper gaffe. Moi, je suis complètement parano. Moi, je suis hyper parano. Mais ce que je constate, et c'est terrible, et c'est très triste, c'est que la crise crée de nouvelles infractions, en fait.
Bah, voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui galèrent et qui passent par les arnaques pour.
C'est assez malin, c'est ingénieux.
C'est vrai que c'est assez.
Enfin, c'est illégal.
Oui, évidemment.
On va pas dire bravo les escrocs non plus.
Non, bien sûr que non. Mais il y a un petit côté ingénieux, comme l'arnaque au collet. Tu sais, sur les. Ok. L'arnaque au collet, c'était sur les distributeurs de billets. En fait, tu mettais ta carte et il y avait marqué carte avalée. En fait, et en fait, c'est simplement la carte. Comme dans un petit étui qui était à l'intérieur du trou. Là, voilà.
Ah, tu mettais avant un collet.
Ça marchait.
Vous avez été.
Pas du tout, mais ça m'avait fasciné. Okay. Donc j'ai regardé évidemment comment ça marchait.
Il y a Ocean Eleven et l'arnaque au collet.
Il y a l'arnaque au collet. C'était pas les mêmes. Il y avait pas. Non, manifestement. Non, il y avait.
Il n'a jamais placé de collet.
Non, il ne faisait pas d'arnaque.
Ni fait d'arnaque au pistolet, a priori, à la station essence.
Mais sait-on jamais. Maintenant, ils sont dans le Var, donc il faut quand même faire attention.
Attention sur les airs de Vignoles.
Nous allons passer aux langues du jour.
Ce sont les langues régionales. Le ministre de l'Éducation annonce que des épreuves de spécialité du bac pourront bientôt être passées en langue régionale. À partir du moment où un élève aura suivi une spécialité pendant 2 ans, en première et en terminale, dans sa langue régionale, il pourra ensuite passer l'épreuve correspondante dans cette langue. Je vous donne un exemple. Vous avez choisi de faire les maths en breton. À partir de la première, et ben vous pourrez passer l'épreuve de maths. Ben non, il y a plein de régions. Mais non, dans le Pays Basque, en Bretagne, etc., l'option sera proposée. Je sais pas, vous choisissez de faire l'histoire en langue bretonne. Et ben dans ce cas-là, vous pourrez passer l'épreuve. Jusqu'à présent, il fallait quand même la passer en français, même quand on avait appris en langue régionale.
C'est Très bien, pour la défense de la culture traditionnelle, locale, régionaliste et autres, mais... c'est très bien. Mais, évidemment, quel est l'intérêt à avoir passé les mathématiques en breton pour ensuite se retrouver à la fac, en fac d'éco, dit... de maths, de sociaux, où on a des cours, des TD de mathématiques, ouais. et qui sont en français.
Eh bien, ce que
moi,
dit...
j'ai passé le bac en breton, à sinus, cosinus et compagnie, non, c'est traduit par Kenavo et je sais pas quoi.
Beaucoup de mépris. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui par exemple, sont à la fac
le
en droit.
Le théorème de Pythagore.
Ils vont passer leur diplôme de droit en anglais.
C'est Toramux.
Il y a beaucoup de gens qui passent leurs épreuves de droit en anglais, par exemple, en licence. Ça existe aujourd'hui.
Et vous pouvez droit international.
Ben non, mais justement, on donne aux langues régionales le même statut qu'une langue vivante.
D'accord, mais il n'y a pas un droit, un droit breton, un droit basque, un droit corse.
Non, mais vous pouvez apprendre, je sais pas, les SVT mais, en okay, breton.
Mais quel serait l'intérêt pour ensuite
de faire vivre une langue régionale.
Mais oui, mais vous avez les mêmes connaissances. Est-ce que ensuite, arriver à l'université avec des termes en SVT, en droit, en philosophie, en maths, en sociaux.
Vous pouvez imaginer un cursus à la fac de Rennes où on continue à faire de la socio en breton.
Pourquoi faire
pour faire vivre une langue régionale. Il faut la faire attacher.
Mais les facs sont endettées et vous allez aller rajouter des options. Non, mais pourquoi on fait pas juste un cours de breton et ensuite épreuve de breton?
Bah oui.
Bah là, c'est pour aller plus loin. Bah, y a des gens
tu n'auras jamais un bac plus 5 en mathématiques bretonnes.
Eh ben, détrompe-toi.
Pourquoi pas?
Avec le théorème du dolmen.
Le dolmen.
Tu as deux dolmens.
Je pense qu'on avait d'autres priorités. Par exemple,
il y a peut-être d'autres priorités.
Voilà, c'est tout juste améliorer le niveau juste de grammaire, d'orthographe.
Mais c'est une richesse d'apprendre d'autres langues.
Et c'est une richesse de parler sport également. Sur RMC, on va revenir sur ce week-end riche en enseignements.
Oui, bonjour.
Il s'est passé beaucoup de choses, Pierre Dorian.
Alors, il s'est passé beaucoup de choses et notamment le forfait d'Arthur Fils à Roland-Garros.
Oui, c'était
vendredi. Ouais. Mais c'est très important parce que nous, vendredi, on était déjà en week-end quand c'est tombé.
Ah, d'accord.
Non, mais le problème, c'est que Fils et Alcaraz, ça fait beaucoup.
C'est ça.
Donc, sur quoi tu vas t'emballer pendant cette quinzaine de Roland-Garros, Estelle?
Mensic.
Les petits fours.
Mensic. Yacoub.
Mensic.
Qu'est-ce qu'il a celui-là?
Ben, parce que je
l'ai vu. Tu m'as surpris, là, tu vois.
Non, mais parce que je le trouve assez formidable et que tous les.
C'est génial.
Et les grands qui l'ont affronté le trouvent très bon. Je l'ai vu jouer hier et franchement.
Comme quoi, il y a toujours une bonne raison de s'enflammer à Roland-Garros.
Et Rodar, évidemment.
Ah, Rodar. Alors, Rodar, c'est vrai qu'il joue.
Jodar, moi, j'aime bien.
Oui, bon, à l'espagnol, Rodar.
Ouais.
On ne t'inquiète pas. Jodar, ça marche aussi. C'est vrai que celui-là, c'est un peu le fils espagnol quoi.
Ouais,
le
gamin il a gagné en 3-7 très sec tout à l'heure.
Donc pourquoi pas. Eh bien écoute, je le note. Rodar et Mensik.
Ouais.
Très bien. Ensuite, la Coupe de France lance et après. Alors on va essayer de se projeter sur la suite.
Ouais.
Les vacances, c'est peut-être des départs, peut-être des investissements, on verra. Et puis bien sûr, toute la semaine, on va parler de la finale de la Ligue des Champions.
Ah,
donc la surconfiance d'Arsenal. Est-ce à double tranchant? Je ne sais pas si tu les as vus là, ils sont sûrs qu'ils vont gagner maintenant.
Ouais, mais ils sont quand même. Franchement, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disaient le PSG c'est tranquille, que ce soit Arsenal ou l'Atlético. Et là, tout d'un coup, le fait qu'Arsenal soit champion, ils sont quand même sur une bonne dynamique, non?
Exactement. Ils sont pas très sexy, mais ils sont très confiants. Donc,
oui.
Ça fait pareil côté parisien. Hein.
Les Parisiens sont très confiants également. Ouais.
Et très sexy.
Et pour le coup, très sexy, oui. On est d'accord.
Mais tu te dis qu'il ne va pas y avoir trop de confiance, que
les Parisiens,
ils l'ont gagné l'année dernière. Ils sont tellement archi-favoris. Ils sont tellement archi-favoris que est-ce que tu vas pas retomber dans tes travers d'archi-favoris, tu vois?
Ouais, on nous a dit ça à chaque tour cette saison et puis c'est passé contre le Bayern et tout.
C'est
donc
vrai.
Non, ça va
c'est
passer.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, la Coupe d'Europe de rugby, le Tour de France féminin, il y a plein de choses.
Formidable, le Super Moscato Show, c'est tout de suite et nous on se retrouve demain midi 15h dans Estelle Midi et puis les podcasts bien sûr, n'oubliez pas, retrouvez tous nos débats rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. À demain.